Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui évite les intros un peu grasses. Ouais, parce que là, franchement, ce que vous aviez proposé, les mecs, c'était pas classe, quoi. C'était pas la classe.
Ouais, hein. Bonjour à tous déjà. Et là, franchement, c'est voilà. Très très soft. Je passe à Isaac.
Voilà, ouais, ils ont trouvé une technique.
Ouais, un peu triste là, un peu triste sur l'intro.
Ouais, vous avez trouvé une technique de passage de micro. Franchement, c'est la classe. Donc, je suis 1AIPIE. Je suis accompagné nié de Thio et Isaac. Bonjour les copains.
Hello.
Hello.
Qui, comme ils ont un micro à se partager, font une technique de balancement et de bascule. C'est
wow. Balance. C'est quoi, balance ton corps?
Balance,
bouge
ton corps.
Voilà.
Mais en fait,
non. Voilà. Tiens, et Isaac, depuis la dernière émission, ne veut plus chanter dans le micro. Il se retient.
Non, je me retiendrai pas trop longtemps, juste pour t'emmerder.
Alors, nous avons une émission. Alors là, on va enregistrer 3 émissions d'affilée aujourd'hui. Donc vous allez voir un peu le truc de dingue. On est des fous furieux. Parce que c'est l'été.
Donc ça, en théorie, t'aurais pas dû le dire comme ça. T'as...
Ouais, moi je suis comme ça. Moi je suis pour la transparence. Et ce qui fait qu'on va passer.
Bah, non, moi je préférerais que t'évites la transparence d'ailleurs. C'est... Parce que visuellement, ça.
Ça pique aux yeux. Hein.
Bon, donc.
Pyjama de l'an 2000.
Si on parlait de notre sujet, nous allons faire un petit courrier des lecteurs rapide. On passe ensuite sur notre rubrique express. On va parler de Batman Saga Ultimate Universe et Marvel Knight numéro 2. Mais on en a fait la dernière fois de Express. Oui, mais ce qu'on est à la bourre dans tous les kiosques. On s'est dit que ce serait bien qu'on en parle avant qu'il soit plus dispo depuis 3 mois. Voilà. Sachez en général que les kiosques, les bouquins qui sont en kiosque sont encore trouvables quelques mois après leur sortie chez les libraires spécialisés. Allez, chez un libraire spécialisé. On enchaîne avec notre rubrique dans les bacs où nous allons parler de Anastasia R, donc c'est nous, Anastasia R, de La mort de Staline, le tome 2, et de La lignée, le tome 1. Et notre splash page ne pouvait être consacré qu'à une seule chose, le grandiose, le magnifique.
Moi
non, pas Thio, nous allons parler de
non,
Cap et de Crew.
Mini-moi,
oui.
Le grandiose, le magnifique, bah, tu parles de mon fils, non?
Faut l'excuser, il est papa depuis peu, et là, il y a une forme de mégalomanie qui a été transférée sur son fils.
Et on peut le féliciter, car c'est la première émission où en live, on peut lui dire bravo, papa.
Bravo, papa.
Merci.
Et Matt nous rejoindra pour nous parler du Josei, le manga portugais dont je fais cette blague pourrie depuis des semaines, en parlant de plus c'est Sword and Cornet. Et on finira par un HS très particulier. Très particulier. Et on commence... le courrier des lecteurs. Et donc déjà on va remercier Arnaud qui nous envoie un superbe dessin de Rorschach en A3. Franchement, il est superbe. Ça fait toujours super plaisir.
Il est absolument magnifique, vraiment.
Juste splendide.
Voilà. Exceptionnel. Franchement, je me suis
tellement exceptionnel que
tu l'as pas vu.
Moi non plus.
Il est chez moi. Faudra que je vous le montre parce que.
Merci Arnaud. On va te donner notre adresse aussi.
Oh là là, les salauds, comme ils sont, c'est terrible. Ils vont nous faire perdre le peu de lecteurs fidèles qu'on a.
Non, non, mais c'est cool parce que tu parles de trucs, tu vois, je fais « Ouais, merci à lui parce qu'il nous a envoyé ça ». Il t'a envoyé ça et tu as gardé l'info pour toi. Ça va, ça fait déjà 2 heures qu'on parle de l'émission et il a toujours donné aucune info.
C'est ça, c'est moche.
Donc, ensuite, quelques
là,
trucs.
Il fait semblant de communiquer avec son portable.
Voilà. Mais vous avez décidé de foirer l'intro de l'émission, en fait. Mais c'est pas possible, quoi.
C'est l'été, ça sent la cigale.
Nico qui nous dit qu'il a découvert notre podcast il y a 2 ou 3 mois à peine et qu'il a honte.
Honte de quoi?
Ben, je sais pas. Il dit qu'il n'en rate pas un seul depuis et il participe à un blog BD qui s'appelle KBD, qui est très sympa, où ils ont une initiative avec plusieurs blogueurs qui s'appelle IDDBD, je ne sais plus trop, mais ils se mettent pour faire des chroniques à plusieurs de BD. On écrit, j'aime bien ce qu'ils font en général. Nous poursuivons.
Ouais, je suis allé sur le site et c'était vachement intéressant.
Voilà, Pariton souhaite la bienvenue à Isaac.
Merci.
Il dit que c'est une très bonne émission et qu'il nous kiffe.
Ouais, enfin, surtout moi pour le coup.
Voilà. Il a rattrapé le retard car il avait raté. Enfin bon, il en avait raté pas mal. Sur nos conseils, il s'est offert en 2 mois. Lock and Key, Spiral, Asterios Polype, Portugal, Nous ne serons jamais des héros, Légende de la Garde, Les Grands Soldats, Le Viandier de Polpette et Scarlett.
On a une influence, mais de... un truc de malade.
Écoutez bien les éditeurs. De constat sans pause, je n'avais jamais été à Découvert le 7 du mois. Je n'ai regretté aucun de ses achats. Il nous kiffe, mais pas son banquier. Donc, je refais tous les vieux commentaires qu'on a eu sur le blog, parce que ça remonte. Arnaud nous laisse toujours des tonnes de commentaires en disant qu'on connaît notre sujet. Ouais, ça dépend des fois. Il a beaucoup aimé quand on parlait de Golek de Fluke. Voilà.
Ça, c'est surtout Isaac.
Matt nous dit qu'il a succombé à Diablo.
Oui, c'est bien et c'est mal.
Tourche nous dit qu'il trouve que Jekyll est une série excellente de bout en bout, je recommande. Et qu'il avait commencé à avoir du mal avec Walking Dead 14, que lui aussi trouve que, bon, il trouve le dessin navrant, lui, carrément. Il trouve que Hideout est une tuerie, bien que le scénario soit sans surprise. Bon, Hideout, il va peut-être falloir le choper, nous, pour. C'est Matt qui nous avait conseillé ça dans la rubrique manga. Et Coriolano nous dit que Walking Dead, ça se dévore toujours, mais moi, je vais les emprunter et plus les acheter parce que c'est bien beau de feuilletonner. Mais je vous rejoins à 200%, c'est très, très redondant. Ok, il y a des accroches chocs, des cliffhangers qui frappent fort, mais en fait, l'histoire avance très peu et on finit par s'ennuyer. Pourvu que le numéro 100 enclenche un nouveau truc. Sinon, I Am a Hero me tente de plus en plus. Et je peux vous conseiller quelques lectures. Batman Court des Hiboux, American Vampire Legacy et Top 10 d'Alan Moore. NIPD Blues chez les mecs en collant, pour les comics, La mort de Staline pour le franco-belge, et Arms Peddler, Soil et Billy Bat, forcément, pour les mangas, tous des CNN.
Eh ben on peut enchaîner tout de suite avec La mort de Staline, alors. Hein.
Oui, parce que c'est on en parle en 15 jours non, ou dans...
On en parle là, tout de suite.
On en parle dans celle-là d'émission, en fait. Ah, c'est pour ça que je dis qu'on fait tout de suite la transition dessus, Pierrick, en fait.
Ouais, mais non, parce qu'on va faire l'express.
Il n'a pas la bonne fiche.
Donc oui, alors effectivement, sur la plupart des trucs que tu cites, on va en parler d'une façon ou d'une autre, et même du Batman Court des Hiboux. Et c'est plutôt là-dessus qu'on va commencer au niveau de la transition. Vous avez vu un peu comme je rattrape le coup. Merci en tout cas de nous laisser ces commentaires. Sur Facebook, il n'y en a pas beaucoup, hein, franchement. Alors que...
Ah bon, on a un truc sur Facebook ?
Oui, on a... mais c'est pas sur Facebook que je voulais dire, c'est sur iTunes. Oui, on a un site Facebook aussi.
Ouais, ouais. Il y a toute la famille de pieds dessus.
Ah oui, voilà. Tous des amis, tout ça. C'est ça.
Ouais, j'ai 200 et quelques personnes dans ma famille.
Pas plus qu'il y a plus que sa famille désormais.
Voilà. Sur iTunes, donc, il y a peu de commentaires. Laissez-nous-en parce que c'est ce qui nous permet de nous faire remarquer un petit peu au niveau des podcasts. Il y en a tellement de géniaux que ça serait bien qu'on ressorte du lot.
C'est pas nos vannes qui nous permettent de faire remarquer.
Okay. Alors là, je dirais que c'est le fait que vous parliez loin du micro qui fait que.
Et ouais, mais c'est dur parce qu'on a chopé trois micros.
Parce qu'en fait, là, il a baissé le micro et ouais. Vous êtes obligé de.
Remonte-le, chéri.
Non.
Oui, mais... si, vas-y. Pivote attends. Et remonte-le un petit peu, non. Comme ça. Pendant que tu fais levier, voilà, je peux m'introduire.
Voilà. Fignole-le un peu la lune de verre, là.
Voilà. Ça. Hop, voilà. Serre bien.
Bien serré.
Voilà, serre-le bien comme ça. On va être bien là.
L'échange de regard était lourd de sous-entendu.
Après le dialogue sur les images, je pense que. Hein, fais bien levier, tout ça. Hein,
bon, allez.
Express.
Batman Saga.
Jingle.
Non, il est déjà passé le jingle.
Il n'y a pas de jingle.
Moi, je veux un jingle.
Il est déjà passé le jingle. Batman Saga, le tome 1, donc chez Urban Comics. Donc. La série précédente Batman s'est arrêtée pour la simple et bonne raison que l'univers DC Comics est reparti à zéro et nous avons donc Urban Comics sort le nouveau magazine Batman Saga qui reprend 4 séries dans l'univers de Batman qui sont toutes reparties au numéro 1. Nous avons donc Batman, Detective Comics, Batman et Robin et Batgirls. Thio ne l'a pas encore lu parce que Isaac le tenait en otage. Et Isaac, il y a un truc très intéressant avec lui, c'est qu'il ne suivait pas la série régulière Batman et donc il a découvert en cours de route.
C'est ça.
Alors, vite fait, on va essayer de courir. Nous avons d'abord Batman par Scott Snyder et Greg Capullo. Qui est l'histoire La Cour des Hiboux qui va paraître, qui est parue en même temps en librairie. Qu'as-tu pensé un peu déjà de globalement?
Globalement, j'aime bien en fait l'ambiance qui est donnée et cette espèce de. Enfin, Batman est là. Batman est toujours dans cette ambiance noire.
qui est ressorti, notamment avec les films, hein, dans les Dark Knight et compagnie. Donc on est toujours là-dedans. Mais par contre, on s'intéresse vachement plus à ce qui se passe autour de Batman. Les personnages, que ce soit les super-vilains, donc en l'occurrence le Joker, mais aussi l'introduction d'un espèce de tueur en série totalement barré, et également Batgirl qui revient après s'être fait sacrément amocher, aussi bien physiquement que mentalement surtout. Les quatre petites histoires se lisent à une vitesse hallucinante, et moi qui suis pas forcément fan de ce genre de format où il faut attendre à chaque fois la sortie suivante, etc., ben c'est vrai que c'est très prenant. En tout cas, sur le premier numéro, ça donne vraiment envie d'avoir la suite. Et bon, ben, faudra faire avec, donc il faudra prendre la suite, petit pied-pied.
Oui, c'est prévu. Donc, tu penses que pour quelqu'un qui n'a jamais lu Batman, tu rentres dedans sans problème, c'est...
On rentre dedans très vite, hein. Je veux dire, à partir du moment où on connaît Batman et son principal ennemi, qui est le Joker, on arrive très vite à resituer les personnages. La Batcave est en place, et puis après, on repart à zéro, il n'y a pas besoin. Enfin, en tout cas, sur ce qui est présenté là, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance encyclopédique de l'univers de Batman. Hein.
Alors moi, ce que je trouve, c'est qu'au niveau du reboot de DC Comics, donc on est censé repartir à zéro, ils ont quand même bien gardé tout ce qu'avait fait Grant Morrison derrière, c'est-à-dire qu'on a toujours Damian Wayne, on a toujours Dick Grayson, etc. Donc ils ne sont pas trop éloignés, et que même en ayant suivi la série derrière, on n'est pas trop perdu par du nouveau. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu facile la façon dont Batgirl redevient la fille... zut, comment il s'appelle, le détective ?
Gordon.
Redevient Barbara Gordon. Là, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu facile, du genre, finalement, elle remarche.
Du temps est passé, voilà. Moi, ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, quand on ne connaît pas forcément... tout l'historique de Batman, c'est l'apparition de Batman avec 35 Robins avec lui, quoi. Oui. C'est ce qui est peut-être le plus choquant, lequel est un Robin adopté, lequel est pas adopté, lequel est machin. Enfin, voilà, c'est là-dessus où on a un peu des points d'interrogation, mais finalement on n'a pas vraiment besoin pour la construction de l'histoire, pour l'instant en tout cas. Ça laisse planer finalement un mystère qui sert le scénario.
Oui, non, pour le moment, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, vite fait, les dessinateurs, Greg Capullo, qui avait longtemps bossé sur Spawn, il est très 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 bon sur du Batman. Il fait très très très, très bien l'affaire.
Je confirme.
Le dessinateur suivant, c'est Tony Daniel, qui lui avait travaillé sur un truc chez Image qui s'appelait The Tense, et qui avait aussi travaillé sur Batman juste avant, qui a un style, moi, que je trouve plutôt pas mal. Il s'est bien adapté au genre. Il passe très bien. Son Joker a une très très bonne gueule.
Ouais, le Joker est très très bien.
Patrick Gleason, qui revient sur Batman et Robin, et a un style très sombre. De toute façon, ça reste sombre. Je pense que en noir, ça doit coûter cher à fabriquer comme ça. Et enfin, on a Ardian Siaf sur Batgirl. C'est un peu plus convenu au niveau du style graphique. En tout cas, c'est des très bonnes équipes, je trouve, globalement. Ouais. Ne serait-ce que les scénaristes. Scott Snyder, qui est un petit peu le gars qui monte un petit peu maintenant. Peter Tomasi, je ne connaissais pas. Gail Simon sur Batgirl, qui est une grande scénariste de BD américaine. Donc moi, je trouvais ça bien foutu. Ouais. Ultimate Universe. Là, on repasse sur Tio. Et c'est encore un renouveau de zéro. On repart avec la troisième époque de l'univers Ultimate, c'est-à-dire que on repart à zéro du début, avec un magazine qui va contenir les trois séries Ultimate, donc Spider-Man, The Ultimate et X-Men. Globalement.
Tout à fait.
Globalement, qu'en as-tu pensé ?
Alors, globalement, on le fait série par série, Spider-Man, Ultimate...
Allez, vite fait, Spider-Man.
Spider-Man, donc, le nouveau Spider-Man, avec la création du nouveau Spider-Man qui ressemble énormément à la création du précédent. Oui. On voit même qu'il est quasiment identique.
Ouais, il y a une légère nuance, mais... Voilà.
Tellement légère que c'est quasiment le même, sauf que c'est pas le même personnage, c'est tout.
Voilà, c'est pas les mêmes pouvoirs, et puis le contexte du personnage
le
est
contexte
très différent.
A changé, ouais.
Hein, c'est pas exactement les mêmes pouvoirs.
Oui, mais ça, il ne l'a pas tout le temps.
Oui, oui, oui. Enfin bon, là, il a un pouvoir qui est un peu surprenant, auquel je m'attendais pas du tout.
Ne spoilons pas.
Donc là, il y a deux volumes, deux numéros qui sont mis dedans. Le dessinateur est franchement elle. Je sais plus si c'est il ou elle. Chaque fois, je... Sarah Piccelli, c'est ça, c'est elle, est exceptionnelle, moi j'adore. Le dessin est superbe.
Le dessin est superbe, ça je suis bien.
Un travail sur la couleur, l'ancrage, c'est...
Et en plus, il est très lumineux au niveau... dans l'ensemble, ça reste un Spider-Man très lumineux pour l'instant.
Et Bendis au scénar est toujours aussi bien. C'est,
rien à rajouter. Voilà.
Il a fait une belle transition, ça vaut le coup. Il reste dans la continuité de Ultimate Spider-Man, mais en faisant quelque chose de neuf. On reste sur ce personnage auquel on peut s'identifier, de jeune. Franchement, très très bien.
Bah, ça fait un bon départ. Après, maintenant, il va falloir voir ce que ça va devenir dans l'univers Ultimate tel qu'il est aujourd'hui. Parce que là, ça va être un peu moins évident, on va dire, que Spider-Man y trouve sa place.
Ouais, pour le moment, ça manque de grands méchants, on va dire. C'est vrai que c'est vraiment la description du personnage principal et comment est-ce qu'il va le gérer. X-Men. Encore une équipe sympathique, je trouve, au niveau du dessin.
Au niveau du dessin, au niveau du scénar. Au niveau du dessin, je suis d'accord. Mmh. Au niveau du scénar...
Pas Comédina au dessin.
Ça manque un peu de... je dirais d'action qui
Nick
font
Spencer,
avancer
Nick
l'histoire.
Spencer.
Parce qu'en fait, on a de l'action, ouais, il y a des fights, mais on n'avance toujours pas dans ce qui se passe. On sait pas où on va. Ouais, les lois ont changé, donc on a certains mutants qui sont, on va dire, cachés, d'autres qui continuent déjà à lutter. Enfin.
Bah là, on a ceux qui veulent rester hors la loi et s'en sortir en restant dans l'ombre, et ceux qui veulent se faire remarquer pour essayer de défendre leurs droits. Parce que les mutants sont devenus vraiment hors la loi. Et on suit les différentes équipes avec de nouveaux personnages, des anciens qui sont toujours là, Jean Grey qui s'éteint en brune. Ouais, ça choque.
Ce passage-là, d'ailleurs, est quand même très très hard. Hein. Moi, j'ai trouvé. Hein.
Hein
Jean Grey, quand elle va justement voir une nouvelle mutante, ce passage-là, j'ai trouvé
assez
rêche, quoi.
Ah oui, il y a un petit passage bien violent. Enfin, moi, j'ai trouvé que le scénario était très bien, mais pareil, on est dans l'introduction de nouveaux personnages, d'un nouveau statu quo, et c'est très bien mené. Et puis, surtout, il faut que ce soit accessible aux gens qui ne connaissent pas les séries. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. C'était un peu le pari d'Ultimate, hein, comme univers au départ. C'est que l'univers soit accessible à peu près tout le temps. Là, pour moi, je trouvais ça très accessible et très sympathique. Ultimate, maintenant.
Par contre, ouais, mais justement, pour en arriver à ça, c'est que le dernier Ultimate, moi, je trouve que c'est pas très accessible. Parce que là, on se retrouve avec beaucoup de choses qui sont mises en très peu de pages.
Ouais.
Et bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit clin d'œil quand même au Technopère avec le monde qui se fait en 3 minutes. Hein.
Alors, c'est Hickman au scénario. Je crois qu'il est anglais, donc il le connaît peut-être.
Peut-être, voilà. Mais ça fait une petite référence, j'ai trouvé, à ça. Après, faut réussir à suivre.
Hein. Et Sad Ribic au dessin.
C'est joli.
C'est beau. Oui, non, franchement, c'est un très très beau dessin. Enfin, moi, globalement, j'ai trouvé que le pari était plutôt réussi univers Ultimate.
Ben, je trouve ça très réussi dans le sens où le pari de faire plusieurs histoires ensemble, c'est une très bonne chose en fait.
Moi, j'ai passé un très bon moment à le lire sans m'ennuyer un seul instant et ça tient bien la route.
J'espère surtout qu'ils vont garder ce truc d'avoir plusieurs séries.
C'est beaucoup plus économique et c'est un peu.
Non, mais surtout, c'est que nous, ça nous permet de suivre plusieurs séries en même temps, plutôt que d'acheter à chaque fois, d'attendre 6 mois pour avoir un bouquin de chaque. Quoi.
Mm.
Et surtout, ça te permet de t'ouvrir sur des séries que tu
n'avais pas. J'espère surtout qu'ils vont avoir des auteurs plus réguliers sur les séries Ultimate que ce qu'ils avaient pu avoir précédemment. Enfin, quoique, on dit ça, mais Bendis a toujours été d'une régularité sur Ultimate.
Je ferai une remarque.
Rapproche ton micro, s'il te plaît.
Je ferai une remarque. Je viens de prendre le bouquin en main parce que je ne l'ai pas lu. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'on a un retour un peu comme dans les vieux bouquins, avec du papier très mat et au niveau de l'impression, c'est quelque chose de relativement granuleux.
Ah, le papier. Bah, c'est des formats un peu économiques. Alors là, on est sur un papier qui est un peu glacé, donc ça va à peu près, enfin pseudo glacé, mais
sur le Batman, on est sur un papier. Enfin, on a une sensation de brillant, quoi.
Ouais.
Alors que là, on est vraiment sur quelque chose. On n'est quand même pas sur du Mickey Magazine ou du Picsou, hein, mais
oui, oui. C'est
franchement,
intermédiaire. Mais bon, il faut dire aussi, il te propose 128 pages de BD pour 5,70€.
Ah oui, non, c'est pas.
C'est ça aussi.
C'est pas une critique négative, hein, c'est une simple constatation, quoi.
Dans le même genre, vu que c'est chez le même éditeur, Marvel Knights numéro 2, avec écrit Fear Itself dessus, mais à part pour Ghost Rider, on s'en fout un peu. Qui retient aussi trois séries, Daredevil, Ghost Rider et Punisher. Donc on avait chroniqué le premier, qu'on avait trouvé intéressant et sympathique. Rapidement, donc Daredevil.
Narrativement, je trouve ça un peu décousu.
Ouais.
Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des morceaux. Parce qu'en fait, on a des passages où on passe d'une idée à une autre. Mais il n'y a rien qui fait le lien, quoi. D'un coup, Matt décide de changer son système de gagne-pain, mais...
Voilà,
c'est... Ouais, moi je trouve ça sympa, un peu oldies. Oui, alors Matt a décidé, oui, que maintenant il serait conseillé pour ouais, non, les
mais
gens.
Surtout, c'est que ça vient. Mais c'est quoi la
Murdoch, donc, a décidé d'aider les gens à se défendre eux-mêmes.
Ouais. Parce ouais. qu'en fait, il veut plus être avocat, parce qu'à chaque fois, on lui pose la question. Mais vu que vous êtes d'Ardeville, ça pose un
ça lui pose des soucis. Mais...
Après. Voilà.
Dessin un peu old school. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours beaucoup la façon dont. Bah là, il y a deux dessinateurs. Il y a Marcos Martin et Paolo Rivera. Représentent les super pouvoirs, les super sens de Daredevil. Mais c'est vrai que le dessin fait un peu old school. Pourtant, il y a une narration qui passe très bien. Moi, il y a une narration très moderne et un dessin qui fait un peu vieillot. Enfin, moi, je trouve ça sympa.
Dans le dessin, je suis d'accord, mais je suis dit, moi, la narration, ça m'a un peu. J'ai trouvé ça décousu, quoi.
C'est Mark Waid au scénario. Ghost Rider avec Rob Williams au scénario et Matthew Clark et Brian Ching au dessin. Ghost Rider
En le lisant, j'ai eu une d'étrange Roland de Spawn.
Alors, moi, en le lisant, j'ai trouvé que les dessins étaient.
Les dessins corrects, sont bien.
Sympathiques, même parfois.
Mais le scénario me fait penser à du Spawn répétitif.
Ouais, moi, j'ai trouvé ça. Trop fluo pour du Ghost Rider, quoi. Non, ça m'a pas. J'ai pas accroché au scénario. Je trouve ça sympathique sans plus, mais ça me donne pas vraiment envie de connaître la suite. Je suis pas impatient, quoi.
Non.
Punisher.
Ah. Ça fait un peu nid d'espion et beaucoup trop de choses qui sont pas encore connues pour qu'on puisse, je pense. Comprendre tous les tenants et les aboutissants de
Greg Rucka au scénario et Marco Cecchetto au dessin.
Le dessin est très sombre, je trouve assez classe quoi.
Ouais, le dessin
vraiment sur pour illustrer le Punisher, c'est quand même c'est nickel quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, mais au niveau du scénar voilà.
Et même l'intégration de super vilains dedans est pas ratée.
C'est clair.
Elle passe bien parce qu'il balance le vautour dedans. Tu dis le vautour avec Punisher, ça va faire bizarre quoi.
Et non.
Et non, ça passe très bien. Le Punisher est super bavard. Ça, c'est waouh. On dirait qu'en gros, ils ont pris Bendis, ils lui ont coupé les cordes vocales pour faire parler le Punisher. Parce que Bendis a tendance à beaucoup parler. Non, moi j'ai trouvé ça très bien, c'est du bon polar noir.
Ouais, mais enfin, je dis, voilà, pour l'instant, ça fait tellement de blanc entre les cases qu'il faut voir la suite pour vraiment tout remplir, quoi.
Ouais,
parce qu'il y a quand même beaucoup de trous dans l'histoire pour l'instant.
C'est très détendu dans la façon dont c'est raconté, etc. Mais c'est sympathique. Voilà. Moi, je continue à lire, mais ne serait-ce parce que j'aime toujours autant Daredevil, que j'ai envie de voir comment la série va évoluer, que c'est un de mes personnages fétiches. Même si, disons que l'équipe de Punisher, j'aurais bien aimé la voir sur Daredevil, en fait. Voilà.
Ça aurait pu être sympa. Ouais.
Bah, Cecchetto est déjà dessiné, hein, Daredevil.
Dans les bacs.
On passe à nous, Anastasia R. Alors, nous, Anastasia R, une BD de Horda Sokotia Seber, tome 1, Villa Ipatiev, chez Grand Angle. Nous, Anastasia R, nous conte l'histoire de la jeune Anastasia Romanoff, qui, comme chacun le sait, est censée avoir été tuée par le massacre de la famille Romanoff, mais des rumeurs courent. Les rumeurs avec elle?
Et Katharine Hepburn.
Oui. Et en gros, les rumeurs disent qu'il aurait dû s'en sortir.
Elle
s'en serait sortie. Et là, ils essayent de nous expliquer comment elle s'en est sortie, qui elle est, etc., etc.
Voilà, vous le sentez en fait, il y a une espèce de malaise par rapport à cette BD. Parce que l'idée de départ pouvait être sympa et qu'en fait, on est tous un peu. Perplexe.
Au niveau du genre, c'est du roman historique.
Ouais.
Et ça va un petit peu aller dans le sens de ce qu'on disait sur. On est d'accord sur le scénario. J'ai mis verbeux.
Ouais.
Verbeux.
Verbeux et flou. On ne sait pas trop où on veut nous emmener, en fait.
Ouais, c'est pas ça qui m'a choqué.
Ça stagne, ça tourne en rond, ça tournicote, on raconte. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va aller?
C'est un tome 1, on met les choses en place. Pour moi, ça me choque pas. On définit les personnages. La façon dont c'est construit m'a pas perturbé.
On définit les personnages. Le problème, c'est que là, je te coupe tout de suite sur le scénar, mais j'arrive sur le dessin. C'est qu'on décrit les personnages, mais. Tu vas relire 4 fois les pages pour réussir à savoir qui est le personnage parce que c'est
t'as pas de différenciation dans les personnages, quoi.
Pas de différenciation, ouais.
Du coup, autre, qui ouais. est qui? Il y a un moment où tu es obligé de regarder le costume, de voir. On revient un peu sur le problème qu'on avait avec Block 109, quoi. Tu regardes finalement la tenue militaire pour savoir qui est le personnage qui est en train de parler, quoi.
Ouais, ils ont voulu faire un côté trop réaliste dans le
tous
dessin.
Tous identiques, quoi.
Trop réaliste dans le dessin, ce qui fait qu'on a du mal à faire la différence entre les personnages.
On a l'impression que tous les enfants Romanov sont que des jumelles, en fait. Elles ouais. se ressemblent toutes, et puis c'est pareil pour les soldats russes. Hein. C'est, ouais, ils ont tous la même tête, quoi.
Moi j'ai mis ouais c'est des clones en fait. C'est faut demander à Palpatine.
Attaque des clones.
Palpatine, le camarade Palpatine. Moi j'ai trouvé le scénario ouais enfin le dessin classique hein
moi, j'ai au niveau graphique
c'est ouais, pour revenir à ça. Ça marche mais le problème c'est quoi les personnages parce que c'est même propre. Moi je trouve ça assez joli la façon dont c'est fait mais
c'est très propre mais il manque le truc qui ferait que bon ben on arriverait à avoir quand même une lisibilité qui soit plus facile.
Voilà, d'autant qu'il y a des pavés de texte.
Et là, on rejoint l'idée que ben, si on veut faire un roman, ben, faut arrêter de le dessiner, quoi. On fait un roman.
J'étais un peu déçu par ça, parce que voilà, il n'y a pas une case, enfin, si, il y en a quelques-unes, mais alors elles sont rares, où il n'y a pas un pavé de texte. Mm. Et c'est. Moi, je les ai cherchées, quoi, au bout d'un moment, pendant que je le lisais, mais quand est-ce qu'ils. Et puis surtout pour nous décrire des choses, vraiment, voilà, très, très romanesque, très, très dans l'écriture. Et ça passe pas en BD, quoi. Enfin, moi, ça passait peut-être à l'époque des premiers Blake et Mortimer, mais là, moi, ça me.
C'est-à-dire qu'en plus, pour le coup, Anastasia est censée avoir une espèce de d'amour naissant pour ce soldat russe déserteur. À un moment donné, en dessin, ça passe pas, quoi. Il y a aucune émotion qui est transmise. Le soldat en lui-même, ben moi j'ai l'impression qu'il change 15 fois de tête tout au long des 48 pages. C'est juste dommage. L'effet crayonné un peu à la ouais. un peu à la Bilal dans certaines sur certaines planches pourrait être est intéressant, mais en fait il y a un manque de régularité en fait dans le dessin pour et dans le dessin des personnages pour qu'on arrive vraiment à s'attacher à ça et à transmettre une émotion par le dessin quoi. C'est
alors
un peu dommage.
Il y a des dessins superbes.
Oui, il y a des planches qui sont vraiment très sympas mais il y a un manque de continuité sur les 48 pages quoi.
J'ai l'impression qu'ils ont pris un bon illustrateur et un bon auteur qui les ont mis ensemble pour faire une bande dessinée. Sauf qu'illustrateur, c'est pas auteur de BD, et auteur, c'est pas auteur de BD. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. Alors, pourtant, il me semble que c'est des auteurs, je les connais pas très bien, hein, Ordas, Cotillas, etc., qui sont assez réputés dans le genre historique. Voilà, je suis un peu déçu.
Ben, un peu déçu aussi par le sujet, parce que Anastasia Romanov, c'est un peu le personnage mythique dont tout le monde. Entre guillemets, voilà, c'est oui, est-ce qu'elle a survécu, est-ce qu'elle n'a pas survécu?
Don Bluth.
Tu as eu des sosies, visiblement, qui, au cours des années, qui ont suivi, sont apparues, qui n'ont pas été reconnues, mais qui avaient visiblement des ressemblances avec les Romanov, mais que la reine Victoria n'a pas voulu voir. Enfin bon, tu as plein de trucs au niveau historique là-dessus, et là, ça manque un peu de. Ça manque un petit peu du souffle épique, voilà, justement, de tout ce que tu peux associer au nom en lui-même, quoi.
Oui, et puis voilà, on sait pas trop vers quoi on veut nous amener, c'est un peu ça. Hein. Ils auraient pu lancer des pistes, justement, à travers ces indices historiques. Mais malheureusement, non. Quoi. Donc, même ça n'arrive pas à nous tenir en haleine, c'est un petit peu dommage.
Bon, une déception.
Une déception, c'est ça.
Et ce n'est que le premier tome du premier cycle.
Alors après, chez Grand Angle, ils marquent toujours cycle 1, même si tu.
Même
si
on n'a pas.
Même s'il n'y aura qu'un cycle.
Ouais. Ouais, mais enfin, là, il y a quand même 1 sur 3, donc on va avoir peut-être 2 suites.
Voilà. Moi, je ne suis pas attenté. Camarades, poursuivons dans le côté communiste, et je pense que ça va être la thématique.
Là, c'est criminel, voilà.
Ça va être la thématique de notre émission, camarades. Car nous enchaînerons après avec encore du camarade communiste.
Ah, communiste.
La mort de Staline, tome 2.
Oui.
Par Fabien Nourry. Et Robin.
Robin de Batman.
Je l'attendais, elle était trop facile. C'était une perche. Non. Thierry Robin. Thierry Robin, un auteur que j'adore. Donc, c'est le tome 2. Nous avions adoré le tome 1. Et je vais laisser, Thio nous faire un peu le résumé, que ce soit pas que moi qui bosse.
Comme le nom ne l'indique pas, ça ne parle pas de la mort de Staline, donc ça ne parle pas.
Vu qu'il est mort dans le premier tome.
C'est ça. On parle donc forcément de la succession de Staline avec bah, toutes les luttes intestines au sein du parti pour savoir qui va devenir le nouveau premier secrétaire et qui va récupérer les miettes du pouvoir. Voilà. Avec ensuite aussi le fils de Staline qui visiblement a quelques difficultés.
Et on parle aussi de la fille de Staline.
Aussi.
Qui mais... elle a des difficultés aussi, mais elle est plus classe.
Ouais.
Elle a la classe, la fille de Staline.
Au niveau du scénario, tu l'as trouvé comment, toi ?
Au niveau du scénario, j'ai mis tragicomique. Il y a vraiment un côté tragicomique. T'as envie de rire tellement c'est ridicule, sauf que tu sais que c'est pas de la fiction. Alors, et c'est ça qui est un peu tragique. Ouais.
Ce n'est pas que de la fiction.
Ben, le truc, c'est ça, c'est qu'au début, ils te disent voilà, qu'il y a quand même des faits historiques, enfin, il y a beaucoup de faits historiques dedans, mais il y a aussi des faits qui ont été rajoutés. Et du coup, moi, ça m'a amené à la curiosité, justement, d'aller ben, me renseigner.
Alors, il y a eu une interview, j'ai entendu une interview il y a peu de Thierry Robin, c'était sur France Info, l'émission BD, qui est très sympa, tu les trouves en podcast, où en gros, il explique qu'ils ont fait aussi des raccourcis. Par exemple, dans le premier tome, quand ils vont chercher le chef d'orchestre, il faut savoir qu'en fait, il y en a eu trois. qui se sont fait caca dessus et qui n'ont pas voulu le faire. Alors qu'eux, ils ont fait un raccourci, ils n'en ont mis qu'un seul, quoi. Donc, ouais, il y a des fois des raccourcis qu'ils ont fait qui s'éloignent de la réalité pour favoriser la narration aussi. Mais apparemment, globalement, tout est très vrai.
Je tiens juste à lire donc la petite spécification, un petit avertissement en tout début de BD. Bien qu'étant inspiré de faits réels, cette histoire n'en demeure pas moins une fiction, librement construite d'après une documentation parcellaire, parfois partiale et souvent contradictoire. Les auteurs précisent toutefois qu'ils n'ont guère eu besoin de forcer leur imagination, étant incapables d'inventer quoi que ce soit d'équivalent à la folie furieuse de Staline et de son entourage. On se met tout de suite dans l'ambiance et dans l'état d'esprit des auteurs.
Oui. Fabien Nury, c'est un peu le scénariste grimpant apparemment de tout ce qui est historique. Il paraît que sa BD, Il était une fois la France, c'est génial. Je suis surpris que Thio l'ait pas acheté parce que c'est purement son genre de cam.
Ouais, mais pour autant, à chaque fois que je vois je lis des avis sur internet dessus, je me dis putain, ça a l'air vraiment bien. Quand je les vois en plus en boutique, je les feuillette et je me dis ça claque quoi. Et non, parce qu'en fait, en ce moment, mon banquier me dit
achète des couches.
Et l'air de rien, le marché de la couche, je pense qu'il est plus productif que le marché de la BD parce que. C'est dingue le prix que ça coûte. Et le lait aussi, d'ailleurs.
Et une fois usé, en plus, tu les gardes pas. Donc, t'as pas besoin de racheter des étagères.
Hop. C'est un podcast BD, pas bébé. Hein ? Merci, on revient dessus.
Donc, voilà. Thierry Robin, moi, bon, je l'adore. J'ai déjà adoré son Koblenz, etc. Et là, sur la succession, ouais, non, c'est terrible. Moi, j'ai mis tragicomique vos mots, ton mot. Parce que Isaac ne l'a pas encore lu. Il a lu le 1, mais il n'a pas le temps de lire le 2.
Mes mots sur le scénar, bah, c'était justement la curiosité, justement, de me renseigner un peu, justement, sur tout le côté. Toute cette période-là de l'histoire russe. Et le dessin, moi, j'ai mis cartoony, parce que je trouvais qu'ils avaient des têtes, des gueules de... Et là, tu vas me dire, toi, t'es carrément à l'ouest, c'est ça ?
Expressionnisme allemand.
Bah écoute, voilà.
Moi, j'ai mis de l'est.
Ouais, c'est de l'expressionnisme allemand cartoony. Non, mais ça se rejoint, parce qu'effectivement, il y a un côté un peu caricatural dans la façon dont se représentaient les personnages. Mais... Thierry Robin a une façon de travailler les masses de noir, travailler les angles de prise de vue un peu décrochés, des raccourcis de perspective un peu violents qui font vraiment penser à l'expressionnisme allemand, je trouve, dans son trait, en fait. Et pourtant, à côté, effectivement, tous ces personnages historiques, il les a, bah, il a fait ce que n'a pas fait Baer dans Nous Anastasia R, il les a déformés, un peu caricaturés pour... qu'on les capte mieux, quoi, qu'on arrive à bien identifier qui est qui, c'est et qu'on se plante pas.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que moi qui n'ai pas lu le 2, je l'ai juste feuilleté, j'ai reconnu les personnages du premier que j'ai lu pourtant il y a plusieurs mois de ça, il n'y a aucun problème pour arriver à retrouver les personnages du parti, du KGB, etc., qui circulent autour, on les reconnaît tout de suite, très rapidement, justement, parce qu'il y a ce petit côté un peu caricatural dans la façon de dessiner. On retrouve également le même type de colorisation entre les deux albums, hein.
Oui, c'est le même coloriste, je pense.
On est sur une palette de couleurs assez restreinte et un peu dériquesque avec une touche de rouge en plus.
Dériquesque. Là, je sais pas si.
Oui, mais ça c'est une référence à sa super série qui du coup n'est plus diffusée désormais. Il était fan de Derrick, c'était sa meilleure série pour la sieste.
Alors c'est Thierry Robin et Lorian Horaire qui ont fait les couleurs. Lorian. Oh, oui, Lorian, c'est le prénom.
Mais j'ai rien dit.
Non, mais je te vois le regarder, l'air bizarre. Voilà. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça superbe. C'est beau, c'est plein de belles images, plus ou moins hallucinantes.
Le passage sur le cercueil de Staline, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a refait penser au Spirou et Fantasio avec
à Moscou. Je suis pour te dire Moscou, oui, oui. C'est effectivement, oui, parce qu'il y a un passage avec le cercueil de Staline.
Mais c'est ça.
Totalement dedans.
Et pour revenir sur ce que tu disais, les angles de vue, comme dans le premier, on arrive à avoir la perspective, la taille des pièces, en fait, le gigantisme des bâtiments, justement, grâce au choix de prise de vue au niveau des dessins qui sont réalisés. Je trouve ça vraiment très intelligent.
Et puis, oui, il y a des scènes terribles, les gens qui viennent rendre hommage à Staline, mais qu'ils auraient peut-être pas dû. Enfin, voilà, très très bon bouquin, moi, que je recommande. Deux tomes. C'est rien, deux tomes.
D'ailleurs, tu me laisses le tome 2, s'il te plaît.
Oui, voilà, merci. Tu repars avec. Camarades, nous poursuivons notre recherche communiste. Je pense que nous avons un titre d'épisode en tête.
La lignée.
La lignée est un gros projet de Grand Angle pour les 10 ans de la collection Grand Angle. Ils ont fait appel à leur scénariste. Quand je dis leur, c'est parce qu'ils sont pleins pour se mettre d'accord sur une ligne générale pour écrire 4 bouquins qui fonctionneraient ensemble.
C'est ça. Donc le premier, c'est celui que l'on a là, qui correspond à Antonin 1937. Le deuxième, Marius 1954. Ensuite, Maxime 1973. Et enfin, Diane et David 1994. Chacune de ces années correspondant en théorie à l'année de la mort des personnages. On fait rapidement le pitch.
Fais-nous le pitch, vas-y, je t'en prie.
Donc en fait, il y aurait une forme de malédiction sur l'ensemble des hommes, des aînés de la famille Brossard, qui seraient donc censés mourir à chaque fois à l'âge de 33 ans, merci le Christ. Donc Antonin, qui est le personnage principal de ce premier tome, apprend en 1937, l'année de ses 33 ans, par l'intermédiaire de son oncle, qu'il y a cette fameuse malédiction. Bien évidemment, il n'y croit pas, mais bien évidemment aussi, son père est décédé à l'âge de 33 ans, son grand-père, son arrière-grand-père.
Il y a un carnet, il remet un carnet.
Et voilà, il y a un carnet de voyage transmis justement par son oncle, qui retranscrit à chaque fois les derniers jours ou les derniers moments de vie de chacun de ses aïeuls. On a déjà les quatre. Est-ce qu'ils sont parus les quatre?
Non, non.
On a les quatre personnages qui sont représentés.
Ils ont travaillé l'écriture
sur la page de garde.
Dans le dossier de presse, les auteurs disaient qu'ils avaient travaillé l'écriture vraiment comme un pool de scénaristes à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un auteur principal qui va mener le projet.
Galandon pour ce premier tome.
Non, qui va mener tout le projet en fait.
Ah, qui mène
tout le projet, et il a son équipe de scénaristes avec qui ils vont travailler. Il va se répartir chacun un morceau et avec quelqu'un qui va s'assurer qu'il y ait une continuité, qu'il n'y ait pas d'erreur entre les différents scénarios.
D'accord.
Donc moi j'ai trouvé ça. Alors parlons du dessin, on va commencer par le dessin, parce que c'est le... Voilà, moi j'étais un peu déçu par le dessin.
Ouais. Vas-y Thio.
Non, pas par le dessin, pardon, j'ai trouvé le dessin un peu rigide, voilà ce que je voulais dire, je confonds mes mots, j'ai fait des erreurs de ligne.
Mm-hmm.
Ouais, j'ai trouvé le dessin rigide.
Rigide.
Ouais, un peu sec, un peu droit, un peu...
Moi j'ai trouvé que c'était trop de... Ça manquait de mouvement, c'était vraiment de l'illustration rigide. Pure. Ouais, non, mais enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'est vraiment de l'illustration pure, comme des photos en fait. Des photos, voilà. Mais il n'y a pas de lien entre les images. Ça manque de mouvement.
C'est ça, c'est pas du tout dynamique au niveau du dessin. Alors qu'il y a certaines scènes de combat, hein, de fusillade, etc. Et ça manque vraiment de mouvement. C'est très plat. C'est très,
Je pense que ça vient de l'ancrage, qui est un peu dur en fait, un peu sec. On voit certaines scènes où on sent que ce mouvement il y était, on sent qu'il y était au crayonné et qu'il s'est perdu à l'ancrage en fait.
Peut-être.
Genre sur certains dessins, moi c'est l'impression que ça m'a donné. Après, ça reste très correct, très ça n'entrave
pas
la lecture.
Pas, hein. Voilà, ça me choque pas.
C'est très propre, hein. Il y a pas de, enfin c'est pas une faute dans le dessin, c'est l'impression que ça nous donne. Hein. Juste pour revenir quand même sur les couves, c'est qu'on a déjà en quatrième de couverture les quatre couvertures des quatre albums, et on voit ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà la même posture pour tous les personnages, et à chaque fois il y a juste le recueil, en fait le livre qui raconte la vie de la famille Brossard qui passe pour chaque génération et qui est dans les mains. Ouais.
Et chaque couverture est dessinée par l'illustrateur de chaque BD. Moi je trouve ça intéressant parce que tu as l'interprétation de chaque personnage par tous les dessinateurs en fait. Moi c'est les trucs que j'ai toujours bien aimé. Donc Antonin, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'en fait, le coup de la lignée du bouquin...
Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore chez les communistes. Eh bien,
c'est ça qui m'a déçu, justement. Mais parce que, à part cette petite introduction où on nous dit « Ah, voilà la malédiction », après, on s'en fout.
Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, ça permet de mettre en perspective, justement, dans l'époque, donc de manière historique, donc en 1937, c'est la guerre en Espagne. Antonin, je ne vais pas spoiler particulièrement, hein, va partir donner un coup de main aux forces révolutionnaires en Espagne. Et donc, on va suivre ses péripéties là-bas.
Par amour.
Il y va, bien évidemment, par amour, pas, alors que lui est issu, justement, non pas de la classe ouvrière, mais... Merci Matt pour
ce moment de poésie.
Ce moment de poésie.
Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Après, voilà, c'est une discussion.
Oh, ben, c'est-à-dire quand tu vois ce qu'il a à la maison, clairement, il préfère être avec sa petite infirmière très mignonne,
qui veut être actrice,
espagnole, qui veut être actrice, voilà. Donc sachant qu'il a de son côté une femme bourgeoise, lui il est issu du coup
et
de
ce enfant.
Milieu très bourgeois, et il a un fils bien sûr, Marius, que l'on retrouvera dans le tome 2. Oui. On a d'ailleurs une petite page en noir et blanc à la fin, une petite planche en noir et blanc à la fin. Ouais, pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche, pour nous inciter à prendre le tome 2.
Le Havre en 54, elle veut pas
l'eau. Ouais, non, alors.
Je suis désolé de te dire ça, mais...
Parle dans le
alors,
micro.
Justement, j'allais
justement, voilà, ma phrase était « Le Havre en 1954, ça me donne pas envie d'y vivre.
» Ben, justement, c'est encore plus difficile, et je me suis surpris, j'ai fait exactement la même réflexion que toi. Franchement, Le Havre, un curé, 1954... j'ai connu des pitchs vachement plus sympas.
Et pourtant, ça m'a donné envie.
Et pourtant, ça m'a donné envie, le texte. Et puis, justement, pour revenir sur ce que tu disais, on est dans cette trame-là de qu'est-ce qui arrive à la lignée ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Mais pourquoi ça leur arrive aussi ? On a une espèce d'indice dès le départ. Est-ce qu'ils vont s'en servir ? Est-ce que c'est une fausse piste ? Peu importe. Mais on a quand même ça qui reste un petit peu en fil rouge.
Moi, ce qui m'a gêné, c'est que... En soi, l'histoire du gars qui part rejoindre la révolution par amour, etc., est sympa. Elle n'est pas gênante. Mais j'ai l'impression qu'elle est limite collée à la thématique de la lignée, collée à la thématique générale, et que ce n'est pas assez mis en avant. Moi, là, ce qui me manque, c'est qu'on nous pose le fil rouge au début, on nous en parle un petit peu à la fin, et tout le milieu, en fait, on a l'impression que ça aurait pu être n'importe quelle autre histoire, c'est pas très grave. C'est ce qui m'a un peu gêné.
C'est ce qui arrive dans 90% des séries américaines que l'on trouve absolument magnifiques. Il y a un fil rouge derrière, mais on a des épisodes, scénarios sympas, mais avec simplement un fil rouge derrière et on développe
ouais,
pas forcément
aimé, oui,
à chaque fois.
Mais le fil rouge n'est pas, ne suit pas le tome. C'est vraiment début, introduction, conclusion. Alors après, je me dis que c'est peut-être pour dire, ouais, on va vous donner un exemple d'une histoire qui arrive et on va peut-être rentrer dans le fond, dans les tomes suivants. Moi, je suis très curieux. En tout cas, le principe de la série me plaît beaucoup. J'ai bien envie de savoir où ça va aller. Mais il y a eu cette déception de me dire, on aurait pu me raconter n'importe quelle histoire. Et ça aurait pu être même une histoire rien à voir avec le tome, c'est un peu dommage.
S'il se passe la même chose pour le deuxième tome, là, effectivement, je serais tout à fait de ton avis et je serais extrêmement déçu.
Oui, mais sachant que...
Sachant que
s'il se passe la même chose au deuxième tome, tu me diras, oh, il me reste deux tomes, on va bien avoir l'explication d'ici le tome 4.
Oui, mais est-ce que finalement l'histoire, elle n'est pas ailleurs que juste dans cette étrange coïncidence qui fait que statistiquement, ils meurent tous à 33 ans.
Je pense que c'est un peu un prétexte, parce qu'ils se sont amusés à vouloir... Ils ont choisi hein, les périodes historiques, les ambiances, etc. Ça permet de parler de choses dont on ne parle pas forcément souvent en BD. Et peut-être que c'est intéressant pour ça.
Le Havre en 54, par exemple.
J'ai failli faire une thèse dessus, Le Havre en 54. Hein, mais bizarrement, on me l'a refusé.
Ton directeur de thèse a dit, non, mais c'est tiré une balle. Quoi,
ça lui a rappelé de très mauvais souvenirs, visiblement, il s'est suicidé. Bref, on conseille quand même malgré tout.
Oui, oui, moi ça m'a donné envie, mais voilà.
No pasarán.
No pasarán. No pasarán. Blotch! Pour conclure en 17 ans une saga majeure, pour l'amour d'une belle, je ne combattrai qu'à Jean. Pour l'honneur et la gloire d'illustres ancêtres, de bien piètres poètes, temples alexandrins. Illustrant les combats de nobles ferrailleurs, qu'après tant d'aventures, nous aurions aimé être. On n'est pas très bon, on rend pas forcément honneur à De Cap et De Croc.
Bah si, on leur rend honneur en montrant quand même qu'on est trois cerveaux et que ça s'invente pas quoi d'écrire comme ça. Hein. Il faut du talent.
De Cap et De Croc, une saga épique, majeure, une saga qui a commencé en 95. Voilà.
J'avais mon bac.
Bac français. Non, bac.
Non, bah, le bac français.
Ouais, je devais passer le bac français. Tu vois, c'est la classe. Waouh.
T'as eu ton bac français, toi?
4 points de retard.
C'est bien ce qui me semblait.
Ça explique.
Mais l'essentiel, c'est de l'avoir au final. Après, tu t'en fous.
Donc, Erol et Masbou ont commencé leur série de Capets de Croc qui nous compte les aventures d'un Hidalgo et d'un fier combattant gascon qui vont chercher le trésor des Tangerines. Ils vont faire de nombreuses rencontres en cours de route, dont le Raïs Kader,
dont un petit lapin,
Eusebius, dont un caillou. On peut remettre le petit caillou.
Et on aura une pensée émue pour le caillou.
Et un savant fou.
Et un savant fou, Bombastus. En gros, on va suivre toutes ces aventures-là. Ça se passe au XVIe. C'est bourré de références dans tous les sens à la littérature classique.
Je tiens à faire une petite pause. Là. Les gros machos de base.
Oui.
On a oublié tous les combats ont lieu à cause de femmes. Si on n'en a pas cité... Une seule.
Oh, mais c'est le début, c'est... Parce
que ce sont les personnages secondaires, les femmes, comme toujours, non?
Allez, je te rappelle que tu es papa, et que tu n'as pas accouché, me semble-t-il. Tu as eu besoin d'un petit peu d'aide pour ça.
On peut revenir dans le sujet, s'il vous plaît.
Rappelle-toi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une chronique BD, pas bébé. Hein, voilà. Merci.
Donc... C'est difficile de parler de cette série, c'est pour ça que je pense qu'on fait plein d'apartés, genre on part à côté, parce que bah, c'est 10 numéros, c'est plus de 15 ans de tomes. Quoi.
C'est 17 ans de tomes, c'est 10 tomes extrêmement denses, autant il y a eu des BD relativement vides, ou en tout cas proches du pas grand-chose en presque 50 pages, autant là, à chaque fois, chaque planche est extrêmement dense. Quoi.
Il y avait en plus quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'on était dans la collection Terre de Légende, de chez Delcourt. Collection Terre de Légendes, c'était la collection où on allait avoir les légendes des contrées oubliées, plein de trucs très fantasy en fin de compte. Et là, on était à 100 000 km, c'est-à-dire que il y avait des références à Molière, il y avait des alexandrins au milieu, c'est-à-dire que les personnages parlent parfois en alexandrin. Il y avait un côté épique, un côté... Il y avait du panache.
Ah oui, c'est exactement ça.
Il y a du panache dans les personnages, ils ont une classe... On en est loin de ce côté vraiment héroïque fantasy qu'il y avait à l'époque. Et pourtant, les personnages principaux sont un loup et un renard.
Oui, mais quel loup ?
Quel renard ? Un loup et un renard. Conscient de l'être. C'est ça qui est très surprenant dans cette série-là. C'est que les personnages sont anthropomorphes, mais sont conscients d'être des animaux.
Ce sont les seuls, hein, mis à part le petit lapin Eusebe.
Eusebe.
Qui sont des animaux personnages. Hein, tous les autres, ce sont des...
Et la cigogne chez les pirates.
Ah oui, c'est vrai. Il y a la cigogne chez les pirates, tout à fait.
Et le poulet.
Et le poulet. le perroquet.
Le perroquet, c'est vrai.
Voilà. C'est bourré d'humour, et c'est surtout bourré de trouvailles. C'est-à-dire que... déjà, bon, on va parler du scénario, globalement. J'ai mis verve.
Le scénario, c'est que pour le tome 10 ou pour toute la...
Pour tous, la totale. Là, on vient de dire le titre... Moi, c'est la verve.
Alors, le scénario, c'est épique. Mais pour le tome 10, c'est l'armounette.
Ouais.
Moi, j'ai marqué sentimentalité héroïque pour ce dernier tome, parce qu'il y a des actes de bravoure, mais aussi, c'est même l'armichouille que Mathieu, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Sur l'ensemble de l'œuvre, effectivement, c'est épique qui ressort. Hein. On est de cap et de croc,
oui.
De cap et d'épée. On est vraiment dans ce genre-là, hein, avec des grands héros, des grandes phrases, des grandes tirades, toujours pour aller sauver la veuve et l'orphelin. On est toujours dans des actes héroïques et toujours avec du panache, hein, pour reprendre le terme de tout à l'heure.
Moi, ce que je trouve quelque chose qui a été très réussi au niveau du scénario, c'est que ça marche aussi bien si on a une culture, si on comprend toutes les références à la littérature classique du XVIe, des références que ça aille à Rabelais, que ça aille sur le théâtre, que ça aille... Fin,
parce que les références ne sont pas que dans le texte, elles sont aussi parfois dans le découpage, dans la mise en page de certaines planches, mais aussi voilà, dans la succession, sur une tranche d'aventure, à un moment donné, on est vraiment dans la représentation théâtrale.
On va être, voilà. Donc vraiment déjà quelque chose qui en soit... D'ailleurs, c'est 17e, je dis 16e depuis tout à l'heure, j'ai peut-être une connerie. 17. Ouais, 17. Ouais, Rabelais 16. Et donc, vraiment quelque chose de superbement réussi à ce niveau-là. Et ça marche aussi si on n'est pas érudit. Ils arrivent à... Comment ? À nous toucher si on ne capte pas les références.
Complètement.
Je veux dire, quand on a dans le premier tome le héros qui dit « Mais qu'allait-il faire dans cette Chébec ?» je veux dire, si tu connais Molière, t'es mort de rire. Si tu connais pas, bon, tu passes à côté de la blague, mais il y en a d'autres qui vont te toucher.
Complètement. Non, c'est tellement riche, c'est tellement bien fait que tout le monde se régale avec ça. Pour la petite histoire, vous m'avez remis le pied à l'étrier de la bande dessinée par De Cap et De Croc.
Ouais, t'avais...
Ouais, ça, c'est la première BD que tu m'as prêtée, que du coup, derrière, je me suis empressé d'aller acheter. Pour me donner goût à la bande dessinée et depuis les années où je m'étais sorti des Lucky Luke, Tintin et autres Gaston Lagaffe quoi. C'est la première bande dessinée adulte on va dire que j'ai lu ensuite quoi.
Globalement sur le scénario, qu'est-ce que tu aurais à dire, Thio? Ouais.
Sur les 10 tomes.
Ouais. Pas eu l'impression que parfois il y avait des trous, qui un peu de remplissage. C'est toujours le risque que tu as sur ce genre de série un peu longue. C'est une question.
Il y a eu des tomes qui ont été un peu plus creux dans le sens où l'histoire générale n'avançait pas.
Il se faisait plaisir avec d'autres personnages.
Voilà, par exemple le personnage du maître d'armes, je crois que c'est le tome 8.
Passage sur la lune était un peu long, par exemple.
Ouais, mais ben oui, parce que là c'était l'histoire générale qui avançait. Mais du coup, moi, le passage du maître d'armes, voilà, sur l'histoire générale, ça avance pas. Même si à la fin, t'as quand même un ouh qui se passe, quoi. T'as un gros truc, mais non, je trouve sur le scénario, c'est 10 ans qui sont écrits, mais c'est un scénario, c'est de la dentelle, quoi. J'aimerais bien savoir justement si au départ, quand il l'a écrit, il avait déjà toute la longueur et toute l'épaisseur du scénario.
Est-ce que j'en sais? Savait où il voulait arriver, il savait comment il voulait finir, mais il a rajouté des trucs en cours de route. Voilà ce que j'en sais. Sur le dessin qui a beaucoup évolué, on s'est rejeté un œil au premier tome, et pourtant, dès que ce tome est sorti, on l'a tous maté, et on est tous tombés fous amoureux de ses couleurs, de cette patte graphique qu'on trouvait magnifique. On le revoit maintenant et on compare au dernier, on dit, oh mon Dieu, comme ça a mal vieilli. Et pourtant, mais on était en extase. Enfin, moi, à l'époque, quand j'ai ouvert mon premier De Cap et De Croc, mais je suis resté sur le cul. Quoi.
Tous les dessins sont extrêmement détaillés. Enfin, je veux
dire, travail de la
que
couleur
aussi
de Masbou,
bien au fond d'une cave, dans une auberge, que dans un palais, sur les à Venise, etc. Enfin, je veux dire, toutes les vignettes sont absolument détaillées.
Il y a des détails dans tous les sens.
C'est la dentelle, comme disait Mathieu. Hein, c'est vraiment magnifique. Quoi.
D'ailleurs, en interview, il disait qu'il s'amusait beaucoup avec le personnage de Zeb, parce qu'il pouvait comme il était tout petit, il pouvait le placer à gauche, à droite, caché dans des cases, faire des petites scènes qui rigolotent.
C'est un peu chercher Charlie avec Zeb, c'est assez rigolo là-dessus. Et puis, petite remarque, à chaque fois, Zeb a sa petite bulle avec les caractères écrits toujours en plus petit.
Oui,
c'est tout petit. C'est le petit
que Zeb,
petit
c'est le lapin permanent. Qui s'est échappé des galères. On ne sait pas pourquoi il y était. C'est le running gag d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il y était. Apparemment, c'était un très très dangereux criminel, sauf que c'est un petit lapin mignon.
Oui, il est trop mignon.
Inspiration Monty Pythonesque, sans
peut-être.
Doute.
Peut-être.
Et bien sûr, en dehors d'histoire de recherche de la fortune de l'aventure, histoire d'amour.
Ah oui, on est dans le roman de Cap et d'Épée. Hein. Le héros, là en l'occurrence les héros, sont là pour aller sauver leur Dulcinée. Dulcinée qui est le nom qui reste assez longtemps pour le personnage du loup. Mais c'est exactement ça. On est vraiment dans ces codes-là.
Bon, en gros, on est conquis du début à la fin.
Oui,
maintenant, mon cher Isaac, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas capté en lisant le tome 10, c'est qui te laissait un petit peu... Parce que là, ils ont conclu une saga, c'est pas évident hein, de conclure.
Et donc, je ne savais pas que le 10e tome était le 10e et dernier tome. Et du coup, je reste sur ma fin, parce que le dernier tome s'appelle De la Lune à la Terre, petite référence Tintinesque.
Jules Verne plus, hein, tu vois.
De la Terre à la Lune, c'est bien Tintin.
Ah non, Objectif
Lune.
Non,
c'est
ouais,
Jules Verne.
C'est Jules Verne. Oui, non, on est bien d'accord. Autant pour moi. Oui, oui, on en a fait la même. On a fait la même. On rembobine. Donc le dernier tome, le dixième, s'appelle De la Lune à la Terre. Ils reviennent donc après avoir passé 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, sur la Lune. Ils reviennent sur Terre, sauf qu'en fait, la fin, pour moi, manque de conclusion. C'est-à-dire que deviennent les deux histoires d'amour sur la suite. On annonce un mariage. Ben non, on annonce un mariage, on n'a pas les cérémonies. Eusèbe est censé nous raconter.
Ça se fait exprès.
Alors voilà, ce que j'ai appris justement tout à l'heure. Mais Eusèbe est censé nous raconter le pourquoi du comment il s'était retrouvé sur des galères. Et apparemment, c'est quand même une grande histoire.
Mais ça, c'est le running gag. Donc il ne fallait pas qu'il nous raconte
ouais,
avec Épée de Croc.
Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent faire l'objet d'un dixième tome. Avec éventuellement des petits trucs qui nous glisseraient vers une nouvelle saga. Mais voilà, du coup, je suis un tout petit peu déçu par cette fin qui aurait mérité un petit peu plus d'informations après 17 ans d'attente. Quoi.
Ben moi, j'ai trouvé que la fin était très réussie, parce qu'en gros, on a les histoires d'amour qui sont toutes conclues, les personnages qui reviennent à la fin, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ils sont arrivés au bout de leur histoire... Il y a une ouverture pour dire que de toute façon, ce seront toujours des héros, des aventuriers. C'est là-dessus qu'on va vers l'ouverture. Le coup de Zeb, c'est un running gag qui ne le raconte pas et les auteurs ont décidé de continuer à faire une série autour de Zeb.
Ça, c'est du coup pour moi la bonne nouvelle. Parce que je suppose qu'au-delà de l'histoire racontée de Zeb, on peut espérer que nos deux personnages, le renard et du loup, dont j'ai bien évidemment Don Armando et Don...
Et pas Don, d'ailleurs. Et... Oui,
et le renard, bref. Donc toujours est-il que...
Maupertuis, aux
voilà, amis. Maupertuis. J'espère qu'ils pourront faire quelques réapparitions là-dedans. Mais voilà, du coup, c'est toujours aussi génial. Hein. Je veux dire, le dixième tome, je me le suis dévoré du début à la fin, et ça a été la bonne excuse pour relire le tome 9. Mais c'est juste, voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de détails.
Pourtant, on a eu les Deus Ex Machina qu'il fallait, on a eu tout ce qui. Enfin, vraiment dans le classique, quoi. Le ah, mais en fait, je suis ton frère, enfin, ce genre de choses-là, sans rien révéler. Enfin, voilà, moi j'étais ravi de ce final. Tio, on t'entend pas? Tu es replongé dans les bouquins.
Bah, j'étais en train de le refeuilleter, le tome 10. Et ouais, du coup, tu es là, tu as l'émotion de certains moments qui te reviennent. Et ouais, quoi, je sais pas, voilà. C'est une série qui se finit. Du coup, tu as le petit. L'amertume de la fin et en même temps l'allégresse d'avoir enfin le dénouement, quoi. Mais c'est ouais, vraiment, c'est une série qui est exceptionnelle. Je trouve le clin d'œil entre les deux couves du 1 et du 10 sont sympas.
Oui, elles se répondent, oui.
Elles se répondent, quoi. Et puis bon, voilà, c'est une histoire qui repart aussi, donc du coup, bon. Parce que l'histoire de Zeb repart, mais a priori, ça risque d'être l'histoire, encore une fois, des trois héros, quoi.
Je ne sais pas, nous verrons ce qu'il en est de la suite. En tout cas, moi, j'aurais appris des mots en lisant De Cap et de Croc, aussi, parce qu'il y a un vocabulaire bien balèze.
On n'est pas dans du Titeuf, hein.
Non, on n'est pas dans du Titeuf, comme dit Isaac.
Ouais, c'est la BD que tu peux lire et relire, quoi. Puis, juste en passant, j'ai déjà travaillé sur la BD avec mes élèves et sur une BD de Cap et de Croc. C'était sur le tome... Hop, cassage de BD. C'était sur le tome 4. Et mes gamins se sont à peu près régalés, en fait, parce qu'on voit que c'est... Les dessins sont tellement bien faits qu'ils ont retrouvé tout le scénar.
Je voudrais qu'on revienne aussi sur la narration, parce qu'il y a le scénario.
Mais vas-y, coupe-moi, en fait. Je raconte une histoire
un
peu perso,
vas-y, finis.
Mais il n'y a aucun souci. Je veux dire, tu peux me dire, en fait, tu vois, grosso modo, j'ouvre mon cœur, je mets mes sentiments là comme ça sur la table, et toi, tu les piétines violemment avec tes talons. Mais vas-y. Donc, non, mais justement, tu n'as pas de talons.
Une belle remarque, bien épique, bien magnifique. Voilà, Matt, nickel, dans le ton.
Mais vas-y, continue maintenant.
Je voulais revenir sur la narration, c'est-à-dire le lien entre le dessin et le scénario. Et toutes les trouvailles qu'il y a eu tout du long, on va penser à la scène avec quand ils sont dans la forêt où il y a tous les perroquets qui répètent ce que disent les héros. Et on a exactement la même mise en page d'un tome à l'autre, enfin d'une page à l'autre, et où on a les mêmes dialogues positionnés différemment. Vraiment une grande trouvaille de narration. Là, on a encore une trouvaille dans le dernier tome de narration où ils nous font toute une série où on a vraiment une scène de théâtre. On a une scène du balcon, entre guillemets, un grand classique. Mais la cour dans laquelle se passe la scène, on a une succession de personnages qui vont y passer plusieurs reprises, et le décor ne change quasiment pas, et les personnages rentrent et sortent de scène au fur et à mesure. Encore vraiment des clins d'œil au théâtre et qui marchent vachement bien en BD.
Et que pour le coup, on a retrouvé dans le premier tome.
On retrouve cette scène du balcon en plus.
De petits clins d'œil au premier tome.
Voilà, Thio, relis le premier tome.
J'ai plus rien à dire en fait.
Voilà, je l'ai vexé. Je l'ai vexé. Bon, ben.
Enfin bon, si certains d'entre vous sont passés à côté de ce chef-d'œuvre, précipitez-vous dans votre libraire préféré, chez votre bouquiniste d'occasion ou peu importe.
Il existe des éditions d'intégrale, je crois.
Alors ça, je sais pas.
De 4 tomes en voilà, petit format.
Je sais qu'ils avaient sorti à une époque des espèces de coffrets 3 tomes.
Ouais, mais les coffrets, c'est pas forcément intéressant financièrement. Je parlais financièrement, le côté intéressant, c'est les petits formats. Ils l'ont ressorti en petit format, il me semble.
Enfin, là, pour le coup, je pense que c'est quand même pas mal de se faire plaisir oui. sur des complets. Généralement, les libraires, on a pu le voir lors du festival de Calanque et des Bulles, et c'est souvent le cas, font des packs complets avec. Y a toujours
Là, tu parles des bouquinistes, là, pas des libraires.
Oui, pardon.
C'est pas pareil.
Mais chez les bouquinistes, pour le coup, vu que c'est quand même une série qui est relativement vieille, on peut trouver des albums soit d'occasion, soit comme ça, en pack.
Quoi, il y a des gens qui se débarrassent de ça.
Parfois, il y en a qui ont besoin de faire de la place, pied-pied. Hein. Pas tout le monde n'agrandit sa maison pour pouvoir mettre ses livres dedans. Hein.
Bon, Thio, tu es revexé toujours ?
Non, oui, d'en sortir en petit tome, mais pas un petit tome. En petit tome intégral, où je crois qu'il y avait les trois premiers ensemble, mais je crois qu'il n'y a pas eu la suite.
Ah, un peu dommage.
Ça n'a pas dû être un grand succès, parce que c'est vrai qu'en même temps, moi, c'est comme ça que je les ai achetés au début, mais... Je les avais déjà lus, mais j'ai racheté ces 3 tomes en un seul. Et c'est un peu une déception parce que la beauté du dessin et des cases fait que bon, ben, un grand format, ça envoie un peu plus qu'un format tout petit où les détails sont un peu moins visibles. Vas-y, prends-moi le micro.
Et puis pour revenir sur le dessin, vraiment, on se rend compte d'une belle évolution. C'est plaisant à voir, quoi.
Oui, oui.
C'est juste magnifique. Voilà, on se rend compte qu'il y a du travail derrière et que c'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas eu un côté répétitif dans tout ça. Et je pense que les auteurs eux-mêmes, je pense, sont fiers de leur boulot quoi, à l'arrivée.
Eh bien, je pense qu'on va pouvoir finir ici. Bon, j'espère que vous aura donné envie de lire cette bande dessinée,
petite
en tout cas,
quand même.
Qui était magique, magistrale, un grand moment de bande dessinée. Un grand moment de lecture. Ce que je regrette, c'est qu'il y a eu plein de petits bonus qui étaient sortis aussi en cours de route avec les tomes, les albums, genre avec la première édition du tome 4. À l'époque, je devais être pauvre parce que je ne l'ai pas acheté de suite. Il y avait une pièce de théâtre en un acte qui était offerte avec dans la thématique. Il y a beaucoup de jeux avec les troisièmes de couverture, c'est-à-dire qu'ils poursuivent parfois la série. Ils manquent de place, en fait, on sent, et qu'ils extrapolent un peu derrière, ils jouent entre les cases. C'est... Voilà. Très, très bonne série. Lisez-la.
Mate manga.
Il nous l'avait promis, il va nous le faire enfin. Le manga portugais.
Le manga portugais, oui. J'ai l'impression que t'aimes bien cette blague-là.
Je sais pas, ouais, c'est une blague très très bidon, mais j'ai trouvé ça très très... Voilà, désolé les portugais, hein, j'ai rien contre vous, mais des fois j'ai des trucs qui me... Ah, je peux pas faire autrement, il faut que je sorte la blague, même si elle est horrible, raciste, xénophobe, voilà. Pourtant, je ne suis pas comme ça. Comment vas-tu, Matt ?
Ça va bien, ça va bien. Et toi ?
Ça va très très bien. On nous a fait savoir qu'on a eu quelques soucis de son, donc on en est tout à fait conscient. Hein, mais là, normalement, on a des conditions d'enregistrement bien meilleures aujourd'hui. Nous allons donc tenter par d'habiles jeux de montage de couper les moments où le son déconnera afin de faire que vos oreilles soient le plus charmées par la douce voix de Mathieu qui va nous parler donc du José.
12 voix, ça prouve que t'es vraiment fatigué aujourd'hui, toi. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler du Josei. Alors le Josei, comme pour le Seinen, on parle de la cible. Hélas, la cible, ce sont les jeunes femmes adultes. Alors, je sais que tu es friand des mots savants.
Hein ? C'est ta cible aussi.
C'est ma cible aussi, moi maintenant que je suis marié, mais tout à fait. Donc, je sais que tu es fan des termes savants. En fait, de la même manière que le Neketsu pour le Shonen... En fait, le genre, ici, c'est le ready-commis. Alors, Ready Commis, sachant que Japon, ça se dit.
Tu reprends le Ready Commis. Ok. Je tape dans les mains et dès que j'ai tapé dans les mains, tu peux reprendre. Ok.
Ok. Ready Commis. Alors, Ready Commis, sachant que au Japon, le R se dit L, ça donne Lady Commis. Autre point sympathique. Lady Komi, c'est une abréviation de Lady Su Komiku. Alors, si tu as l'oreille un petit peu travaillée, tu reconnaîtras en fait le Ladies Comic prononcé à la japonaise et qui a donné en fait le genre du Josei.
C'est marrant qu'ils utilisaient des mots anglais pour.
Alors, ça arrive assez souvent. Ça s'appelle le Wazei Keigo, de mémoire. C'est en fait. Non, Eigo, excuse-moi. C'est en fait, pour certains mots qui n'existent pas au Japon, ils le prononcent à la japonaise et ils le traduisent en un mot japonais.
D'accord. Ok, oui, c'est. Et quand ils le font avec du français, c'est pour se la péter, en général, c'est rigolo.
Oui, il y a plein de bouquins qui sortent là-dessus sur le français traduit en Japon, en japonais, et ça donne des choses rigolotes.
Ok, donc Ladies Comics, oui, donc de la comic, de la bande dessinée pour les femmes.
Pour les femmes, voilà. Donc on peut comparer ça au seinen pour les garçons.
Ok. Et quels sont les clichés de ce genre? Parce que la bande dessinée pour femmes, tout de suite, je sens qu'il va y avoir du cliché. Qu'est-ce qu'elles aiment les femmes?
Donc quand j'ai parlé du seinen, j'ai comparé ça au shonen. Et là, je vais faire la même comparaison par rapport au shoujo. Donc le shoujo, comme je disais, ça traitait généralement du grand amour de manière un peu plus enfantine. Là, le josei aborde le sujet, le ou les sujets, de manière beaucoup plus sérieuse, violente et crue. En général,
principalement les. Stop. C'est chiant, mais c'est chiant.
Là, tu vas avoir du boulot au montage. Hein.
Ouais. En général, tu reprends à ce que tu disais. En général.
En général, du grand amour de manière beaucoup plus enfantine. Le josei, lui, va aborder le sujet de manière plus sérieuse, plus violente et plus crue. Il n'y a pas de prince charmant dans un josei, et les histoires peuvent très bien être des histoires d'une nuit.
C'est-à-dire que dans les josei, les hommes sont tous des salauds qui abusent des femmes.
J'irai pas jusque-là, mais les hommes sont tous des salauds qui sont des hommes normaux de la vie courante, on dirait.
D'accord. Ok. Donc oui, c'est pas le grand amour, quoi, forcément.
Ah ben, et c'est surtout qu'en fait, la recherche de l'être idéal, elle a lieu jusqu'au moment où le personnage principal se rend compte qu'il n'existe pas, quoi, et qu'il le trouvera jamais.
Mais on pourrait se rapprocher d'un truc, pour exagérer un peu peut-être, à la Sex and City, les jeunes femmes qui cherchent l'amour idéal et qui tombent du haut de leurs désillusions, jusqu'à ce que peut-être elles en croisent un qui soit finalement peut-être le bon, mais c'est pas ce que
C'est ce niveau de maturité et de le côté adulte, hein, vraiment. Mmh. Les personnages sont plus complets, plus complexes. Et la plupart du temps, c'est par rapport à un shoujo qui idéalise beaucoup les personnages, les relations. Là, on est dans quelque chose de plus adulte.
D'accord.
En josei connu, on peut trouver des josei comme Happy Marie, Honey and Clover, Nodame Cantabile. Ça te donne un petit peu le
ah
genre
oui,
de.
Ah oui, Nodame Cantabile, ça avait l'air vachement bien ça.
Oui, c'est. Oui. Oui, je confirme, il est pas mal.
Voilà, c'est le truc, ça avait l'air vachement bien, parce que ça m'a. Bah, tu vois, j'aurais pas classé ça dans un alors, manga pour filles ou garçons, j'aurais classé ça dans un truc de musique, quoi.
Oui, justement, c'est de la même manière que pour le seinen, je te disais, après c'est dur de faire des cases, des catégories.
Oui.
Là, pour le josei, comme c'est plus adulte, tu vas trouver. Il faut bien classer un bouquin, mais tu vas trouver différentes. Différentes histoires, différents thèmes, différents environnements. Et d'ailleurs, tu m'offres une transition fabuleuse avec le manga dont j'ai parlé, qui est un josei fantastique.
D'accord. Et c'est quoi le nom de ce josei dont tu vas nous parler?
Alors, ce josei, c'est plus C, Sword and Cornet. C'est édité chez Soleil pour 8 euros, on dira.
Sword and Cornet, épée et cornetto?
Oui. Et je t'avoue que j'ai pas encore vu le lien entre le cornetto et. Tu me diras, c'est cornette avec deux T. Un cornetto, c'est avec un seul T en anglais de mémoire.
Non, mais c'était une blague, en fait. Voilà.
Oui, mais je t'avoue, je ne sais pas ce que veut dire cornette avec deux T.
Il y a un truc de cuisine ou...
Non, non. Non, non, du tout.
C'est peut-être un mot anglais que je ne connais pas. Donc, et le plus C ?
Plus C.
C'est les bonnets ? Les héroïnes ?
Ah bah non, tu verras, j'en parlerai plus tard de ça.
D'accord. Donc, mais de quoi que ça nous parle, Sword and Cornet, plus c'est Sword and Cornet.
Donc, ce manga qui a été dessiné par Yuryoji Tama est, comme je le disais, un josei médiéval fantastique. L'histoire prend place au sein d'un royaume très prospère, où tout pourrait aller pour le mieux, jusqu'au jour où le roi tombe malade. Donc, suite à sa maladie, le premier des trois fils du roi rentre alors à la capitale, en tant que prince héritier. Mais ce fils-là a une vision particulière, une autre...
Top. Forcément. Donc, mais... Oui. Donc, tu vas me dire, mais... Tu vois, c'est là que tu prenais.
Mais celui-ci a une vision très particulière d'une autre race du monde plus C qui s'appelle les Amantels. On nous présente cette race comme des monstres qui peuvent prendre apparence humaine. Et le prince Hector, ayant fait beaucoup d'aventures dans le monde extérieur et ayant beaucoup côtoyé les Amantels, veut convaincre le conseil que cette race est honorable et... à reconnaître au même niveau que les êtres humains.
D'accord.
Le lendemain de son arrivée, le prince Hector, donc le premier fils du roi, meurt alors mystérieusement. Orselito, le troisième fils du roi, et Belka, le bâtard, deuxième fils du roi, découvrent alors qu'il y a une conspiration du conseil derrière la mort d'Hector et tentent de fuir le château. Dans leur fuite, Orselito tombe dans les mains du conseil et Belka est laissé pour mort suite à la chute d'une falaise.
D'accord.
Et voilà. Et j'en dirai pas plus parce que je vous laisse savoir ce qu'il en est.
Mais on est dans du truc genre politique à la Game of Thrones ou...
Oui et non, oui, mais c'est vrai que...
Parce que là, le personnage principal, en fait, on suit qui principalement ?
On suit Belka.
Belka, d'accord.
Le fils...
D'accord, donc le héros est un homme.
Le héros est un homme, et tu verras que Orselito est un homme aussi, et en fait, on a beaucoup d'hommes qui sont personnages principaux ou secondaires de cette histoire-là.
D'accord. Et ils sont amoureux les uns les autres ?
Je vais te parler du dessin d'abord, et après on finira sur toutes tes questions sur est-ce que c'est réellement un josei, parce que je me suis posé la même question.
D'accord. Juste un truc, grâce à Google Translate, je peux te dire que plus c'est Sword and Cornet, ça veut dire plus c'est épée et cornet à bouquin.
Ah oui, ben là dans ce cas-là, excuse-moi, mais ça prend toute sa signification.
Cornet à bouquin ? Oui, moi aussi, c'est clair pour moi.
Ah oui, ouais, toi non, mais tu l'as pas lu, mais...
Ah, parce que ça, c'est un truc, cornet à bouquin ?
Non, cornet à bouquin, non, mais je pense que quand tu cornes ton livre, moi c'est comme ça que je l'ai compris.
Ouais, bon, ça m'a l'air totalement bizarre, mais donc vas-y, enchaîne, ouais. Excuse-moi de t'avoir encore interrompu.
Donc sur le dessin, on a un trait qui est très précis, très efficace. Et un point plaisant, c'est que il n'y a pas de gaufrier, tu sais, de 6 ou 8 cases comme on peut trouver tout le temps. Chaque feuille a une taille de case différente dans les différentes pages. En fonction de ce qui veut être montré, on a un découpage qui est très travaillé. Les personnages et les bulles peuvent déborder sur les cases qui peuvent être inclinées.
Ça reste assez courant dans le manga quand même, ça.
Oui et non. Dernièrement, je suis tombé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas où les cases étaient vraiment tirées à la machine, imprimées avant d'être dessinées dedans. Et là, vraiment, c'est très travaillé. Il y a une technicité et une beauté dans le dessin qui sont très, très présentes.
D'accord.
Par rapport à certains autres mangas que j'ai pu lire, y a vraiment un travail et sur les cases pour apporter une fluidité supplémentaire.
D'accord.
Donc dessin qui m'a conquis et un scénario qui m'a vraiment surpris aussi, parce qu'il est travaillé et complexe. comme je te disais tout à l'heure,
le cliché, c'est un truc pour filles, donc à la base, ça ne doit pas être travaillé et complexe. Et donc, quand ça l'est, t'es surpris. Oh, comme t'es misogyne!
Ah, bah oui, moins très faux, ouais. Bon. Yeah. J'avais déjà pas de gens qui me suivaient, beaucoup de gens qui me suivaient sur Twitter, je viens d'en perdre 42. Donc, comme je te disais tout à l'heure, à première vue, en lisant plus C, je me suis dit non, mais bon, c'est pas un Josei, je me suis planté. On est dans un monde fantastique, il n'y a pas franchement d'histoire d'amour qui tient le thème principal. Il y a toute une histoire sur. Les guerres politiques, tout ça. Je suis justement en train de regarder en ce moment Game of Thrones et il y avait des choses qui résonnaient dans les deux de la même façon. Je me suis dit bon, non, c'est pas un Josei, c'est clair. Et au final, après réflexion, je me suis dit ok, bon, il y a des personnages féminins dans le qui participent dans le manga, mais dans un seinen, on se serait retrouvé face à une miss au corps de hentai. Avec un petit bout d'armure qui cache juste ce qu'il faut, mais pas plus. Le personnage principal, il est doué dans ce qu'il fait, mais normal, quoi, pas plus que ça. Et on n'insiste pas sur son atout, sur ses atouts principaux. Et c'est pas le personnage qui va briller, qui va sortir grandi de ce qu'il vit. Au contraire, il est plein de doutes, il est plein de moments de faiblesse. Les personnages secondaires sont en règle générale très charmeurs, mystérieux, et on retrouve le côté androgyne de ces personnages-là qui te charment et où tu sens qu'il y a un peu de noirceur au fond d'eux, mais c'est ça qui les rend encore plus attirants.
Ouais.
Dans les persos, en règle générale, ils sont assez fins, il n'y a pas de bodybuilder, il n'y a aucun culte du physique en fait dans le personnage.
Le top, il n'y a aucun culte machin chose.
Ah, ok. Il n'y a aucun culte du corps dans les personnages, culte du physique dans les personnages. Le complot, on fait souvent usage de poison, il y a plusieurs couches de conspiration. Les sentiments des personnages sont très travaillés, sont très justes, ils sont touchants dans leur sensibilité. Réellement, en y réfléchissant bien, je me pense que si ça avait été un seinen, tout aurait été traité de manière clairement différente. Le côté de Josei, justement, c'est ce qui fait que ça apporte un côté super rafraîchissant et très intéressant, parce que chaque situation aboutit à un dénouement qui est différent de ce dont on a l'habitude de voir et du mode de pensée qu'on peut trouver dans de nombreux seinen, quoi.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai été très très surpris par ce Josei, très agréablement surpris. Je vais répondre à la question que tu me poses habituellement. Je n'ai pas trouvé d'animé sur cette série.
Ouais.
Et je ne sais plus si j'avais dit, c'est fait chez Soleil. Il y en a deux qui sont sortis en France et 7 au Japon. Et la série est toujours en cours.
D'accord. Ça a continué en France ou c'est juste qu'on a du retard
De mémoire, ça continue en France. J'ai pas eu d'informations comme quoi c'est arrêté chez nous.
Ok, en tout cas, c'est intriguant. Ouais, surtout que tu m'as dit que tu avais eu du mal à trouver un Josei qui te plaise.
Oui, parce que Nodame Cantabile ou ce genre d'histoire, j'étais pas dans le bon état d'esprit pour lire ce genre de choses. J'avais pas envie de m'attarder sur une histoire comme Happy Mary où c'était une histoire de sentiments un peu difficile.
Ou c'était une histoire de sentiments un peu...
C'était une histoire de sentiments un peu dure, un peu difficile, avec de la pression psychologique, avec ce genre de choses. Et j'avais envie justement de trouver un Josei qui peut prouver que dans ce style-là, on peut aussi trouver quelque chose qui est très prenant, qui est très aventureux et qui est très moi que je trouve vraiment super bien construit.
Oui, plus c'est safe, pas uniquement c'est... des histoires de sentiments.
Exactement.
Il y a d'autres choses dans ce genre.
Et exactement, c'est exactement ça. Que je veux pas enfermer un genre à un type
d'histoire. C'est le problème du fait de des genres. Moi, tu sais que j'aime pas trop le principe de genre en général. J'ai un peu du mal.
Voilà.
Mais c'est vrai que on va dire que c'est plus des courants que des genres dans le manga, dans le dessin asiatique. Ok. Eh ben merci pour tout. Tu n'as rien à rajouter à part dire au revoir.
Ben j'ai déjà pas dit bonjour au public, donc bonjour et au revoir en fin de chronique.
Ok, on se retrouve dans le mois prochain. T'as quelque chose de prévu, une idée, ou tu es encore dans le flou total?
Non, je n'ai pas encore creusé. Ce sera peut-être le yaoi cette fois.
Ah, le yaoi. Ça marche. Je pense que tu feras plein d'heureux. Et je sais, ma phrase ne veut rien dire. Merci, et puis on se retrouve le mois prochain. Ciao.
Ciao, ciao.
Hors-sujet. Pour notre hors-série, notre hors-sujet, nous allons parler de choses très particulières. C'est les goûts de l'été. Les goûts de l'été. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons découvert plein de nouvelles choses plus ou moins étranges qui nous ont plus ou moins plus, chacun ses goûts. Et nous allons commencer par vous parler de quelque chose que nous avons apprécié grandement, sauf Thio qui en a été privé. C'est le rosé au pamplemousse.
Ah, c'est la boisson de l'été.
Voilà. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est bon. Ça se marie très bien avec des grillades. Notre HS va vraiment être pourri cette fois-ci. Et poursuis avec ton autre trouvaille d'été.
Attends.
Ah.
Oh, mais putain, elle vous fait enculer, voilà, ça va, je vous l'ai dit, là, comme ça.
Bon, il va falloir faire du cut. Hein,
qu'est-ce qui s'est passé, Thio? J'ai pas capté. J'ai failli lui prendre le micro, il est parti de 2 cm et ça l'a énervé tout de suite.
Non, vas-y, Thio, arrête de lui voler la parole.
Non, mais c'est bon, j'ai dit mon truc. Bon, bah, il a dit son truc. Donc, bref, rosé pamplemousse, plusieurs recettes différentes. Hein. On peut acheter du rosé pamplemousse déjà tout prêt. Avec le bouchon qui va bien parce que c'est un bouchon à vis. Attention, pour du rosé, ça dénote d'une grande qualité de vin quand même. Mais on peut aussi acheter de la liqueur de pamplemousse à côté et se faire son propre mélange perso et rajouter plus ou moins de pamplemousse en fonction de son goût. Hein, voilà.
De la liqueur de pamplemousse.
Oui.
Bah moi je sais pas, moi j'aurais juste pris du jus de pamplemousse, mais.
Ah non, c'est de la liqueur de pamplemousse, sur le même principe qu'il y a la crème de pamplemousse en fait, comme il y a la crème de cassis, la crème de mûre, etc. Ils font la même chose en pamplemousse.
Ok.
Et pour attention, ne pas trop en mettre.
Et pour se rafraîchir, une autre boisson que nous a fait découvrir Isaac. Mais là, alors là, c'est un peu plus. Comment dire
C'est un peu l'instant Genie, quoi. c'est une sorte de revival des années 80. Avec, vous imaginez en fait des Bounty. Bon, on fait de la pub, hein, donc on fait 3, c'est ça. Bounty, Mars, Twix.
Non,
et vous prenez donc le Bounty et vous le pressez. Ça fait une sorte de jus et vous mettez des bulles. C'est le Schweppes Coconut. Et franchement, c'est bon. C'est bon. Ça a le goût de l'été, tu vois. Ça a le goût de la crème solaire à la noix de coco qui te donne.
Le goût de la tongue. Le goût de la tongue, ouais.
Voilà, ça c'était un petit peu les goûts de l'été, les nouveautés comme ça qu'on nous sort pour espérer peut-être que le soleil nous fera voir n'importe quoi.
On a également, sur le principe du rosé au pamplemousse, ils nous ont sorti du vin blanc à la pêche. C'est-à-dire que comme le rosé pamplemousse, c'est tellement fatigant de mettre du rosé et de la crème de pamplemousse, ils nous ont sorti du vin blanc à la pêche. Donc là aussi, ça devait être extrêmement fatigant de verser de la liqueur de pêche avec du vin blanc. Ils nous l'ont sorti déjà en tout prêt. Bon, ils ont quand même la décence de ne pas faire payer ça trop trop cher. Mais voilà, enfin... bon été à vous.
Oui, je crois que c'est la chose la plus pourrie
qu'on ait
jamais fait.
Je pense qu'il manque juste un truc, donc c'est le vin rouge. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme fruit avec le vin rouge? Vin rouge pastèque. Hein,
vin rouge mûr?
Non, il faut le goût un peu... Non, d'été.
Ah, d'été.
Vin rouge pastèque.
Oui, je crois que là je vais vraiment vous couper, parce que...
Non, mais...
Non, mais mauvais, mais, là, c'est
non,
pas
mais,
intéressant.
Vas-y, coupe-nous. Non, mais quelque part, moi, je pense qu'on fait un petit concours. Trouvez-moi un bon fruit à mettre avec le vin rouge. Et on tient le succès de l'été prochain.
Et vous venez nous l'offrir si vous passez dans le sud, voilà.
En fonction des vins choisis, je pense que mettre du raisin dedans, ça sera déjà pas mal.
On va s'arrêter là, je crois, parce que ça devient n'importe quoi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours
avec encore des tonnes de BD, parce que c'est un peu de ça qu'on parle en théorie, on en parle beaucoup mieux que le truc de l'été.
Nous, pendant ce temps, on va essayer de se bourrer au chouette coco.
Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog, sur iTunes, à nous liker sur Facebook, tout ça, nous, ça nous fait plaisir. Et à dans 15 jours, ciao!
Au revoir! Et ciao!
Donc on est en train de vouloir parler de Café de Cro, on est en train de se mettre d'accord sur notre intro de Fresh Face, ce sera peut-être un bonus, mais là ça en verra. Et on a décidé de partir sur un truc de malade, on va faire un alexandrin, toute cette BD devant nous parler un alexandrin, et on va faire un alexandrin exquis.
Déjà, si on arrive à faire l'alexandrin tout court, on fera déjà pas mal.
Voilà, donc on va venir, chacun écrire un alexandrin.
Moi,
et...
j'étais parti sur l'idée de faire ça en acrostiche avec le Café de Cro.
Oh, putain, alors là, ouais, l'acrostiche en audio, comme ça marche trop bien, quoi.
L'acrostiche en alexandrin, ça va pas leur faire beaucoup à écrire là.
Ça fait beaucoup beaucoup de
vent. Allez, hein, dis-moi, on te retrouve à la fin de l'été, hein.
Je voulais faire ça. Bon, je ferai ça cet été tout seul.
Allez, j'écris le premier vers, je vous laisse. Attendez, je prends un papier, passe-moi un brouillon.
Il faut donc qu'on.
Oui.
Voilà, il faut qu'on écrive un truc donc qui soit. Chacun parle de.
On va pas chacun, ça... tiens, attends, passe-moi un brouillon. Je vais écrire le premier vers. Isaac va écrire le deuxième. T'écriras le troisième. Si, il faut qu'on le voit.
C'est pas un vrai cadavre.
C'est pas un vrai cadavre exquis. C'est pour ça que c'est un alexandrin exquis. Il faut qu'on arrive à faire des rimes quand même.
Et là, c'est quand même une sacrée hyène. Hein, parce que faire le premier, finalement, c'est pas
le plus. Ah non, parce que. On va en faire plein.